J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, les lords du Canu Info, comme tous les jours de la semaine. 19h-20h, donc l'émission de ce soir, c'est bien sûr Delphine.
Bonsoir.
Voilà, qui nous revient de la neige, puisque son avion a atterri il y a à peu près une demi-heure. On a pris un car pour aller très vite à Canu, puisqu'elle revient de Vancouver.
Donc, bien sûr. Alors,
elle va nous parler de Vancouver tout à l'heure, des JO.
De Lyon, je vais vous parler en fait de Vancouver. On va revenir un petit peu sur ces Jeux Olympiques. Et on va y forcément y amener un certain nombre de critiques et de méchanceté contre
voilà.
Ces jeux.
Si vous voulez les résultats du jour, c'est pas dans le Canu Info que vous les aurez, naturellement. Le Canu Info anti-sport, c'est bien celui du jeudi aussi. Mais je crois que c'est les autres jours de la semaine aussi. Et puis sinon, on va commencer par l'actualité internationale avec un petit mot sur les actions récentes de l'armée israélienne qui est rentrée donc hier aujourd'hui en Cisjordanie, notamment aujourd'hui. Ils sont allés à Naplouse, ils sont allés à Bethléem, ils sont allés à Deïché, c'est un camp qui est juste à côté de Bethléem. Donc il y a eu pas mal d'enlèvements, de rafles, d'arrestations, on appelle ça comme on veut. Quoi qu'il arrive, c'est illégal naturellement. Donc les militaires sont arrivés, ils ont contrôlé des gens, ils en ont arrêté au moins 11 dans les chiffres officiels qui ont pu être donnés un petit peu par les différents témoins, parce que c'est pas facile d'avoir des infos, puisque l'armée israélienne botte en touche quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi vous êtes allé là-bas, qui vous avez arrêté, etc. Ils disent à peu près rien. Ils racontent juste un peu qu'ils ont arrêté que quand ils sont allés à Deïché, ils ont reçu des bombes artisanales sur leur voiture. Vous allez me dire, ça paraît logique quand on vient vous arrêter alors que vous n'avez naturellement rien fait vis-à-vis d'Israël. C'est un peu un réflexe de défense hein, d'attaquer ceux qui viennent vous. Alors ils vous arrêtent pas, hein, on utilise bien les bons termes, ils les enlèvent puisqu'il n'y a aucune décision de justice qui demande l'arrestation de telle ou telle personne. Hein, c'est vraiment des forces armées qui viennent enlever des gens, qui les mettent en prison. On se rappelle comment ça se passe dans les prisons israéliennes. Il y a très peu de procès finalement. Les gens attendent. Ils sont interrogés, torturés, tabassés. Même si la Croix-Rouge peut intervenir, c'est pas évident pour elle. Les visites sont quasiment pas autorisées, en tout cas au début. Donc voilà, c'est vraiment l'antichambre de la sous-démocratie. Ça ressemble plus à une dictature d'Amérique du Sud qu'à la démocratie quand on est palestinien dans une prison israélienne. Donc voilà, donc 11 nouveaux Palestiniens enlevés par l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis, bon, il y a l'info du jour quand même, c'est le petit Nicolas, dit Nicolas Sarkozy, est allé faire son mea culpa au Rwanda. Donc vous avez tous entendu qu'il a même prononcé le mot d'erreur, donc il s'est pas excusé, hein, parce qu'il a expliqué aux journalistes qui lui posaient la question pourquoi les Belges étaient excusés et pas la France. Il dit non, mais c'est une question de vocabulaire, on n'est pas comme eux, en gros. Donc voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est dans la justification, puisque, alors, on rappelait quand même les faits, le Rwanda c'est du style 1 million de morts, le génocide se prépare juste après l'assassinat du président, enfin son avion s'écrase, etc., assassinat, donc les massacres commencent, la France est au courant avant que les massacres se préparent. La France étant très liée au régime rwandais à l'époque, la France ne fait rien. Ensuite, il y a tous les massacres, ça, il y a eu beaucoup de témoignages. Ensuite, il y a une opération qui s'appelle l'opération Turquoise, qui est une opération très contestée au niveau international, puisque la France va, à travers cette opération Turquoise, évacuer certains ressortissants français qui seraient encore restés, mais normalement, il n'y en restait quasiment plus. Et puis surtout, va permettre aux génocidaires, aux principaux génocidaires, de se barrer. Donc, cette opération Turquoise, elle va aider finalement les salauds à partir et à pas subir les contre-coups, puisque le génocide a eu un peu deux étapes. Les 90% du temps c'était les le Hutu qui massacrait les Tutsis, et après ben les Tutsis reprennent le dessus, et c'est à ce moment-là que l'opération Turquoise a lieu, comme par hasard. Donc voilà, donc la France au niveau international, elle est condamné tout de suite, hein, l'opération, quand le Rwanda, quand le massacre a lieu, quand on lit toutes les infos des agences de presse internationales, il y a énormément de critiques, sauf en France. C'est-à-dire qu'en France, hormis, moi je me rappelle à l'époque, Courrier International, qui a fait un gros numéro avec une parodie de Tintin, et c'était Tonton au Rwanda, c'est le tout le reste de la presse, sauf, il y a deux journaux, en fait, j'ai oublié, sauf Le Figaro. Puisqu'il y a un journaliste de Saint-Exupéry, du Figaro, qui fera des articles critiques, c'est le seul. Tous les autres sont à l'unisson de l'État français, donc il n'y a plus du tout de presse libre pendant tout ce moment-là. C'est, voilà, on ne parle pas de l'action de la France négative, etc. Donc aujourd'hui, Sarkozy, il est porteur de cette même manière de faire, c'est-à-dire la France n'a pas participé au génocide, n'a pas su ou n'a pas... Voilà, n'a pas fait exprès de pas avertir et n'a surtout pas aidé les génocidaires pendant et après. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il peut dire qu'il y a eu des erreurs, mais pas dire que la France ni a participé, ni est coupable, ni s'excuser. Finalement, c'est pour ça qu'il s'excuse pas, hein, par rapport aux Belges, parce que la France reste sur son truc officiel, que on n'a rien vu, on savait pas, on se doutait, mais on n'imaginait pas, etc. Alors, faut savoir que le processus en cours, ça fait à peu près 2 ans qu'il a entamé, pour essayer de rapprocher le Rwanda de la France, pour refaire rentrer le Rwanda dans l'enceinte qu'on appelle la France-Afrique. Hein, on rappelle que Sarkozy a beaucoup dénoncé la France-Afrique, mais aujourd'hui, ce qu'il a mis en place, c'est exactement la même chose, hein, puisqu'il soutient toujours les régimes pseudo-démocratiques ou les vraies dictatures du Cameroun, de Congo-Brazzaville, de Mauritanie, de Madagascar, du Gabon, du Niger et autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, voilà, il faut réentamer des négociations pour pas que la France réintègre ce coin d'Afrique où elle n'est plus présente. Alors, il faut savoir que c'est avant tout des problèmes économiques et industriels qui motivent l'intervention de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, il y a aussi le problème des militaires français qui sont poursuivis par la justice du Rwanda, et l'objectif de Sarkozy, c'est de faire qu'avec ce pseudo mea culpa, de faire que les Rwandais disent bon, ok, on négocie, on oublie ce qui s'est passé, on repart sur de bonnes bases, ce qui serait le pire du truc au niveau justice démocratique, puisqu'il n'y aurait pas de justice sur les génocidaires, enfin ceux qui ont collaboré en France, c'est-à-dire l'armée essentiellement et l'État français. Donc c'est l'idée, hein, c'est de faire voilà, de faire table rase de ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui est en train de se préparer. On rappelle quand même que, de par sa participation, la France a quasi été complice quand même du génocide. Donc c'est pas rien le blanchiment qu'essaye d'obtenir Nicolas Sarkozy. Donc voilà, pour plus d'infos sur tout ça, je vous incite à aller voir le site internet de l'association Survie, S-U-R-V-I-E, S-U-R-V-I-E. Et ils ont écrit des livres, sont sortis, je crois, à La Découverte et à d'autres, dans d'autres maisons d'édition, où il y a beaucoup, beaucoup d'infos sur le Rwanda et sur notamment l'opération Turquoise et l'action de la France. Donc voilà. On reste dans la partie internationale avec un petit mot sur le Kyrgyzstan. Alors, Kyrgyzstan, on connaît pas bien, mais c'est un pays qui fait parler de lui aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'ils sont en train de ratifier le protocole de l'ONU sur l'abolition de la peine de mort. Donc c'est très très bien. Alors le Parlement a voté ce protocole le 11 février dernier. Il reste plus que aux dirigeants du Kyrgyzstan à valider tout ça, ce qui devrait être fait dans les semaines qui viennent, et donc ça serait un nouveau pays, le 73e État à ratifier ce protocole d'abolition de la peine de mort. Ça voudrait dire que le retour de la peine de mort au Kyrgyzstan deviendra à nouveau compliqué. Hein, puisque c'est écrit dans la Constitution qu'il faut faire voter des choses, voilà. Donc c'est positif. Donc on le signale parce que c'est un pays dont on parle peu. Puis là, ils font un truc positif. Je vais faire quelques petites infos maintenant un peu nationales. Une petite info locale d'abord. Il y a un nouveau squat qui avait ouvert dans le 7e. On en avait parlé. Ils se sont fait un peu attaquer. Alors c'est une attaque surprise. C'est un peu bizarre. Alors. Ils sont dans ce squat depuis quelques semaines. Le propriétaire est au courant, hein, puisqu'il est déjà venu les voir pour essayer de les faire partir. Et qu'est-ce qui s'est passé hier matin? Eh ben, le propriétaire, il est arrivé avec des engins de chantier, notamment une énorme grue, et il a commencé à casser le bâtiment en attaquant notamment par le toit, alors qu'il y avait des gens dedans. Donc là, les copains du squat ont appelé leurs potes. Donc, des gens sont venus pour essayer de faire d'empêcher ces machines de continuer de détruire et puis de blesser les gens qui étaient dedans. La police est arrivée, sûrement aussi alertée par des voisins. Et la police a demandé à rappeler au propriétaire qu'il n'avait pas le droit de détruire parce que le local était habité, même si c'était des squatteurs, c'est quand même des gens qui habitaient le lieu. Alors la police n'a naturellement pas arrêté. Les gens qui étaient là, ni le propriétaire qui avait appelé ses engins de chantier, ni d'ailleurs les gens qui venaient détruire, alors qu'ils sont dans l'illégalité. Mais la police reste quand même du côté des propriétaires. Hein, on va pas les changer du jour au lendemain. Hein, donc, mais la loi étant du côté des squatteurs, les policiers ont rappelé aux propriétaires que s'ils voulaient que les squatteurs partent, il fallait aller devant la justice et demander un avis d'expulsion. Donc voilà, une attaque en règle. Hein, comme quoi, on présente souvent les squatteurs dans les gros médias comme des gens qui font des choses illégales, qui habitent dans des endroits sans payer de loyer, en rentrant, etc., de force, tout ça. Là, pour le coup, l'illégalité, elle était du côté de MTIMO, le propriétaire du bâtiment, et des proprios qui sont venus donc détruire et mettre la vie en danger des habitants. Donc voilà, on rappellera quand même que finalement, les pires sont pas ceux que dénoncent les médias dominants. Un petit mot sur l'écologie. Deux petites infos sur les OGM. La première, qui est plutôt positive, c'est les Amis de la Terre et Greenpeace qui ont comparé les surfaces cultivées en OGM dans l'Union européenne l'année dernière, donc 2009 et l'année d'avant, 2008, et il y a une baisse de 11%. Alors, faut savoir que actuellement, le seul OGM qui est cultivé en Europe, c'est le Mont 810. Donc, c'est un maïs de la firme Monsanto qui a été beaucoup critiqué. Et dont 5 ou 6 pays interdisent la culture, dont la France. Hein. La France a été limite, c'était juste, mais il y a effectivement toujours ce moratoire sur le maïs Monsanto 810. Donc finalement, il reste l'Espagne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie. Mais grosso modo, bah ça baisse. Pourquoi? Eh ben l'essentiel de la raison essentielle, c'est que c'est à mauvaise presse en Europe grâce aux actions, au lobbying de plein de gens, de plein de structures, de plein d'associations, et les OGM, ils arrivent donc pas à les vendre. Alors qu'est-ce qu'ils font actuellement? Eh ben vous les mangez quand même parce que ils les vendent comme nourriture animale. Mais finalement, c'est peut-être moins rentable pour eux que de faire du maïs dans nos OGM. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on avait déjà donné pas mal d'infos sur Monsanto, sa pratique un peu limite légale. Le rappelé aussi comment les États déterminent que un OGM est inoffensif. Ils se servent des chiffres de Monsanto. Les études sont données par Monsanto. Et on avait eu des échos comme quoi il manquait des données, comme quoi. Enfin, il y a eu plein de doutes sur Monsanto. Là, ça vient d'être confirmé par le journal Indian Today, donc un journal indien, qui donne une interview de Tiruvadi Jagadizan, donc qui est l'ancien directeur de Monsanto Inde, qui a dirigé pendant 20 ans Monsanto Inde, et qui vient de démissionner en disant qu'il en pouvait plus, qu'on lui demandait de truquer les données, de pas tout donner à l'État indien pour valider les nouvelles cultures OGM. Notamment, là, il y a un scandale en Inde sur des aubergines génétiquement modifiées que Monsanto essaye de faire implanter. Il y a de l'opposition, et ben pour une fois, c'est une première en fait, c'est un ancien dirigeant de Monsanto qui passe dans la lutte anti-OGM et qui révèle l'attitude de la firme, le lobbying qu'elle fait, la manipulation des données, voilà, il y a plein de choses. Donc c'était pas simplement un délire conspirationniste des anti-OGM, c'est bien confirmé là par un dirigeant de Monsanto Inde. Je rappelle que les aubergines, ça pousse très bien, sans OGM, et sans pesticides d'ailleurs, c'est un truc qui pousse plutôt bien. Et puis, toujours sur l'environnement, une petite bonne nouvelle, on avait des doutes, normalement il y a une directive européenne qui demande à ce que les poules pondeuses ne soient plus en batterie, en cage en fait. Les poules de batterie soient plus en cage à partir de 2012. Elles sont dans des conditions extrêmes. Elles sont coincées dans des petites cages. On leur lime le bec pour pas qu'elles se fassent mal. Elles perdent les plumes, ces poules, tellement que elles ont des conditions qui sont anormales. Elles peuvent pas bouger. Donc là, il y a une loi, une directive européenne qui va interdire ça. Et il y avait le ministre de l'Agriculture polonais qui a demandé à ce que ça soit rejeté par le Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne. Parce que ça les arrangeait pas en Pologne. Et là, le Conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne vient de dire non. La directive, elle est ce qu'elle est. Elle ira jusqu'au bout. Donc, à partir de 2012, les poulets devraient moins souffrir normalement, mais moins parce qu'on est encore loin des conditions idéales de vie du monde animal dans le monde industriel. Et puis. Ah, c'est un peu la bonne nouvelle du jour. Peut-être que bientôt, on ne verra plus de 4x4 Hummer. Alors Hummer, c'est ces monstres qu'on voit dans tous les films américains, puisque c'est beaucoup utilisé par l'armée américaine. C'est tiré de ces véhicules de l'armée américaine et c'était commercialisé par General Motors. Il y a le Schwarzenegger qui en avait une bonne dizaine, je crois qu'il en a plus que 4 ou 5, parce qu'il est devenu écolo, donc il a divisé par 2 son nombre de Hummer. Donc c'est un truc de dingue qui pèse plusieurs tonnes, qui consomme des kilos et des kilos et des milliers de litres de pétrole. Et ils ont essayé de le vendre, General Motors, à Tenzong, je sais pas comment ça se prononce, une société chinoise qui est pas du tout dans l'automobile, qui est plutôt dans les machines du secteur de la construction des infrastructures et dans l'industrie énergétique. Et donc voilà, ils attendaient l'accord de l'État chinois pour cet achat. L'État chinois a dit, mais nous, ils nous ont jamais posé la question. Donc là, vraisemblablement, General Motors se retrouve sans client pour acheter sa marque Hummer. Et ils ont donc décidé de l'arrêter, de faire disparaître la marque, d'arrêter les modèles, et de pas licencier, a priori, c'est un grand discours gentil, les gens, mais de les remettre dans les autres filiales. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est quand même le symbole du pire qu'on puisse faire dans l'environnement et dans l'automobile. Vous allez me dire, ça pollue, la Clio, elle pollue aussi, mais c'était quand même à une moindre échelle. Et puis, dernière info avant de parler des JO... l'info, c'est la semaine dernière, on n'a pas parlé au Kenya Info, ça venait d'arriver en fin d'après-midi, le putsch au Niger, et on a une nouvelle rassurante du secrétaire d'État français à la coopération, Alain Joandet, qui a dit pas de souci, Areva va pouvoir continuer à exploiter les mines d'uranium. Les militaires, on a discuté avec les militaires, on s'est mis d'accord avec eux, ils laissent les accords en cours. Voilà. Donc finalement, on n'a pas besoin de démocratie hein, quand on fait du capitalisme. On a juste besoin que les accords avec les dictateurs, les militaires tiennent. Et ben voilà. Et c'est l'État français qui annonce ça. C'est pas Areva qui l'a annoncé. Hein, c'est l'État français qui parle au nom d'Areva finalement. Donc voilà.
Anywhere. Est-ce que tu crois qu'il a perdu des points à cause de son costume et de sa gestuelle?
Et il a le droit. Il a le droit d'être ce qu'il est, il a le droit d'être comme il veut. Mais évidemment, ça laisse une image assez amère pour le patinage artistique. Il se fait remarquer, il se fait décrier, et on n'a pas tort de le décrier. Il a du rouge à lèvres, il s'habille de façon féminine. Et ça, c'est très ennuyeux, parce qu'on pense que tous les garçons qui patinent vont devenir comme lui. Alors c'est un très mauvais exemple.
Quand on a fait grand état de la coureuse d'Afrique du Sud en disant peut-être que c'est un homme, alors, peut-être que c'est pas une femme, etc.
On pourrait lui faire passer.
Moi, j'aimerais ça qu'il passe ces tests-là.
Et on pourrait lui faire passer. Tout à fait. On devrait lui faire passer un test de féminité à ce moment-là.
Je l'ai dit. Je sais que je suis pas politically correct, mais quand même.
Pas du tout. C'est ce que tout le monde pense. Alors, on le dit à voix basse. Maintenant, on le dit un peu à voix haute.
Mais c'est tout.
Et puis sur la glace, ils se voient bien. Alors peut-être parce qu'ils sont d'une couleur différente que nous, Nelson. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils ressortent très bien.
Vous voyez, c'est incorrect de se payer la tête d'un Américain parce qu'il est noir ou jaune ou quoi que ce soit, mais on peut tout à fait se moquer des étrangers parce qu'ils habitent dans un autre pays.
Oh ouais.
Alors, vous aurez reconnu les héros de South Park qui, je crois, résument bien un petit peu ce que sont les Jeux Olympiques, hein, une course entre nations et tout ça pour faire de l'argent. Alors, vous aurez sûrement reconnu Monsieur Philippe Candeloro, qui s'est encore une fois, puisque c'est pas la première fois, illustré par des propos racistes cette fois, hein, puisque le couple de patineurs dont il parle est un couple noir, hein, donc ils ressortent bien, vous l'aurez compris,
sur la piste blanche.
Les années précédentes, on avait eu droit à des propos sexistes. Hein, il varie, c'est bien. Et le début de ce petit montage est en fait un tout petit extrait, puisque c'est bien plus long cette discussion entre deux. Canadien, donc sur une chaîne de télé, qui critique un patineur américain, Johnny Ware, qui voilà sur sa tenue, tout ça avec des propos affligeants et d'une homophobie, mais alors sans aucune honte, hein, aucun, enfin vraiment tout ça c'est très 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 assumé. Alors c'est quand même un des rares endroits où on peut quand même c'est vrai, le sport, finalement, être sexiste, raciste, alors raciste dans le football un peu moins maintenant, mais enfin, des propos comme ça, un politicien, un artiste les tient, tout de suite on crie et on se scandalise. Alors heureusement, le Conseil québécois des gays et lesbiens a déposé une plainte. Hein, et puis on va rappeler que l'un de ces homophobes n'est autre que l'ancien ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Voilà, donc pas un petit rien du tout, un petit animateur sans expérience. Non, un politicien. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu un premier scandale, on va dire, sur ces Jeux Olympiques. C'est le scandale écologique, hein. Avec d'abord quoi ? La neige, il n'y en avait pas, il a fallu l'amener par camion, la créer. C'est d'abord un petit peu sur ça qu'au début la presse était un petit peu finalement avait stigmatisé un petit peu les JO. Oh là là, ça va pas avoir lieu. Alors c'était bien, en plus ça faisait un peu du scoop au jour le jour. Juste pour vous redire, le Snowmax qui est utilisé hein, pour créer de la neige, il y en a un autre, ça s'appelle le polysiloxane. L'un est accusé d'avoir des problématiques bactériennes, l'autre il était utilisé comme pesticide à la base. Vous voyez, c'est des produits pour créer de la neige et pour la faire tenir, la durcir. Hein. Ils sont assez nuisibles à l'environnement, mais il n'y a pas que ça, évidemment. On nous avait promis des jeux verts.
Hein. Ouais, sur ça, surtout qu'ils ont vendu les jeux comme étant les premiers jeux écolo, quoi. Ouais. Durable.
Voilà.
Développement durable.
Alors, on va vite s'apercevoir que c'est pas vrai, parce que déjà, rien que pour construire tout le bazar, eh ben, il a déjà fallu détruire un certain nombre de choses, dont un espace sauvage qui abrite toujours, en l'occurrence, un certain nombre d'espèces menacées. Alors c'est un parc qui a été beaucoup médiatisé au Canada. Tout simplement parce que la municipalité de Vancouver Ouest, elle y était opposée à ce que il se fasse des choses sur ce terrain-là. Il faut savoir que il y aurait déjà 4800 arbres qui auraient été détruits dans cet endroit, mais en tout, c'est 100 000 arbres qui auraient été détruits pour construire ces installations sur Vancouver, hein, et puis aux alentours, hein, puisque c'est pas que sur la ville, évidemment. Voilà, tout ça, il faut évidemment rajouter toutes les aires de stationnement, tout le dynamitage et l'asphaltage qui a eu lieu. Il a fallu construire des routes, installer des aqueducs. En plus de ça, il y a tout un tas de pavillons d'hôtels supplémentaires qui ont été construits à côté du village olympique. Il y a une ligne de train qui a été aménagée entre l'aéroport, le centre-ville. Puis évidemment, toutes les installations sportives qui sont toutes éphémères, hein, puisque en général, un truc de bobsleigh, ça sert un peu qu'au JO, hein, Grenoble, ils s'en souviennent de ce que ça sert. Et puis, on pourra aussi vous raconter que il y a eu une forte quand même opposition au Canada. Hein, il y a quand même un certain nombre de militants résistants très bien organisés dans ce pays, hein, et que contre l'installation au tout départ, deux femmes ont été arrêtées. Si on en parle, c'est parce que l'une avait 78 ans et l'autre en avait 71. Elles ont pris des peines de 10 mois et de 14 jours. La dame qui avait 71 ans, elle est malheureusement décédée à la sortie de prison. Voilà, à quoi ça amène, hein, c'est ce que j'imagine, ils peuvent appeler des dommages collatéraux, hein, c'est pas bien grave, hein. C'est les JO, c'est beau, allons-y. Alors comme je vous le disais, il y a quand même des gens qui se mobilisent, et puis en particulier qui, ben les Indiens, les autochtones. On en avait déjà parlé effectivement ici. Il y a un groupe qui représente plusieurs communautés qui a signé et qui est partenaire, hein, de ces JO, qui est intégré dans le processus de mise en place. C'est la Société des Quatre Premières Nations Hautes. Mais il faut savoir que même au sein de ces communautés, il y a des gens qui se sont organisés contre ces JO. C'est-à-dire que même au sein de la communauté, ça fait des vagues. Il y a eu quand même un certain nombre d'affrontements même. C'est pas un truc uni, hein, il faut pas croire ça. Hein. Il y en a qui sont dévendus, tout simplement. Donc ils se battent, ces groupes, contre l'expansion des domaines skiables sur leur territoire. Il faut savoir que donc Vancouver sera en Colombie-Britannique. Le Canada, partout sur son territoire, a signé un certain nombre de traités avec les Indiens. Et en Colombie-Britannique, c'est pas le cas. Et elle se comporte en Colombie.
Donc les terres sont encore, appartiennent encore aux Indiens.
C'est des terres volées, ouais, tout simplement. Donc tout ce qui s'y construit légalement, normalement. Et donc en fait, c'est bien ces JO, parce que ça permet à l'État de faire un certain nombre de choses, un certain nombre de démarches, sous la bonne étoile finalement des JO, et de continuer à accorder des autorisations aux entreprises privées, bien évidemment. Tout ça sur le dos des populations locales. Ça entraîne évidemment, hein, le gouvernement, il insiste, il continue. Il y a un petit peu, c'est vrai que bon, il faut dire que depuis le jour où Vancouver a su qu'ils avaient
les JO,
les choses se sont accélérées très très vite contre une partie des habitants et contre les opposants. Alors, il y a eu évidemment l'embourgeoisement de certains quartiers. Hein, on a rénové, embelli, et donc on en a déplacé certains. Il y avait déjà une crise du logement à Vancouver qui était très importante. Ça n'a fait que de l'accentuer. Et puis, en déplaçant des populations, on a créé évidemment plein de gens à la rue, puisque les loyers sont devenus très chers. Et il y a encore plus de gens qui se sont retrouvés à la rue. Alors, les estimations, entre 2002 et 2008, on est passé de 600... à 3100 domiciles fixes. Voilà. C'est énorme pour une ville. Hein.
Donc c'est pareil, c'est un effet collatéral des JO.
Exactement.
Quoi.
Alors c'est pareil, toutes les chambres d'hôtel sont très chères, donc du coup même les gens qui avaient l'habitude, hein, souvent chez les pauvres, les précaires, de se loger à l'hôtel, c'est pareil, c'est fini. Ils se sont retrouvés sans domicile. Et puis à côté de ça, les législateurs, ils ont pris, hein, les grands moyens quand même, puisqu'en 2004, déjà en 2004, hein, ils avaient pris plusieurs décrets, règlements visant à se débarrasser tout simplement des sans-abri. Hein, c'est le Safe Street Act de 2004, donc qui a sur les itinérants encore précarisé leur situation. Évidemment, tout ça, plus on est à la rue, plus ça amène une criminalisation aussi, hein, de la personne. Hein, vous êtes dehors. Enfin bon, donc c'est un cercle vicieux. Et puis ça a continué, puisque même en 2009, c'était le dernier, les policiers ont maintenant le droit d'amener de force les sans-abris dans des centres d'hébergement spéciaux qui sont situés hors de la ville. C'est sympa, on est toujours dans le fascisme. Hein. Donc ensuite, il faut savoir quels sont les paprikos sans domicile fixe, hein, puisque c'est toute opposition, même pacifique, qui est réprimée, puisque le 23 juillet 2009, la ville a passé donc une résolution interdisant tout ce qui était bruit, affichage, mégaphone, qui interférait avec le succès des jeux. Ou, je cite, la jouissance du divertissement sur la propriété de la ville.
Voilà, en gros, pendant que les jeux existent, la démocratie n'existe plus. Le citoyen n'a plus le droit de s'exprimer, pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Il a le droit juste de participer, d'être positif. Il faut dire qu'on aime les JO, qu'on est d'accord avec ce que fait les JO. Voilà. On en reparlera à la fin de l'émission sur l'historique des JO, mais les JO, ça reste tout le temps un système totalitaire. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup dénoncé à l'époque des JO de Pékin, parce que les JO allaient dans une dictature, soutenir la dictature finalement, faire gagner de l'argent à la dictature. Mais là, quand les JO arrivent dans une démocratie représentative traditionnelle occidentale qu'est le Canada, eh ben ça transforme la démocratie en dictature.
Alors, il y a beaucoup d'opposition, parce que le Canada, c'est vraiment des gens, ils sont très organisés, surtout dans les milieux autonomes et libertaires. Et donc, il y a tout un tas de gens qui ont appelé à avoir des actions directes et d'organisation très claires pour apparaître. C'est aussi un risque, hein, puisque c'est 2000 euros l'amende, hein, quand même, plus la prison, parce qu'on peut penser que les outrages et rébellions existent tout autant que chez nous. Le 13 février, la semaine dernière, il y a eu une manifestation menée tambour battant par à peu près 2000 personnes, un bel baston avec la police. Ils ont évidemment cassé un certain nombre de choses, hein, dégradé pour éviter que les jeux se fassent, mais il y a des choses plus simples qui se sont faites. Donc les gens racontent comment ils ont bousillé les distributeurs automatiques dans les banques pour justement emmerder le tourisme, bloquer tous ces systèmes capitalistes. Donc plein de petites choses comme ça, à côté des, comme de la semaine dernière, d'actions plus radicales, se sont mis en place. Et c'est vrai que Vancouver a essayé un petit peu de... autant le gouvernement canadien qu'au niveau local, ils ont essayé de cacher un peu tout ça, de camoufler toutes les manifestations.
Bah, ils y sont bien arrivés, puisque les médias dominants qui collaborent donc avec les JO n'ont quasiment jamais parlé de la contestation, ni celle qui est avant que les Jeux s'ouvrent, ni pendant que les Jeux ont lieu. Donc effectivement, vous entendez tous les jours les résultats des sportifs français avant tout et les autres derrière, mais jamais de la lutte et de la résistance des Canadiens.
Ouais, et puis il y a des années où on avait parlé aussi de la sécurité, c'est-à-dire du nombre de militaires, de policiers déployés. Là, un petit peu moins, il faut bien le dire quand même. Pourtant, il y a 4000 soldats, 16 500 policiers, des caméras de surveillance qui ont été ajoutées un petit peu de partout. Maintenant, chaque autobus public est muni de 3 caméras. La sécurité, elle a été au centre malgré tout de toute cette organisation, hein, il faut pas se leurrer. On parle de 600 millions d'euros actuellement de dépenses pour la sécurité. C'est des chiffres qui sont en expansion par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les JO précédents, hein. Vraiment, ça a vraiment, entre Turin et Salt Lake City, qui étaient des JO d'hiver, ça a vraiment beaucoup, beaucoup explosé. Donc voilà, tout ça amène quand même, évidemment, une oppression, hein, sur les habitants. Il faut pas se leurrer, hein. Il y a un certain nombre de commerces de proximité ont été déplacés, certains ont été fermés pendant les Jeux. Donc il y a quand même, voilà, c'est très fasciste tout ça. Alors, évidemment, il faut bien penser que... certains y trouvent leur compte, hein, quand même, puisque par exemple, je vous parlais de sécurité, et moi, très bizarrement, en faisant un petit peu des recherches, je suis tombée sur des sites d'assureurs avec des dossiers très très intéressants sur les Jeux Olympiques et les assureurs. Alors là, il y a à peu près une quinzaine d'assureurs qui sont sur ces JO. Il faut savoir que maintenant, c'est plutôt ce qu'on appelle les banques assureurs qui font le pari d'être à la fois l'assureur financier et puis aussi le partenaire en sponsor de ces JO. C'est un petit peu en train de se déplacer. C'est intéressant de voir parce qu'il y en a un certain nombre qui ont cette double casquette, puisque par exemple il y a une compagnie d'assurance, ses salariés ont porté à un moment la flappe olympique, donc voyez, ça fait un petit peu la presse. Et puis au début, on se dit, ah ouais, on se rend pas bien compte à quoi ça sert, les assurances. Et bim, papa, par exemple, il faut savoir qu'il y a 20 000 tickets qui avaient été vendus. Tout ça, ça a été annulé. puisqu'en fait, les organisateurs ont décidé qu'il y avait des problèmes de sécurité à cause de la neige fondue et donc de la stabilité des installations pour accueillir le public. Ben ça, ça coûte. Donc les assurances, elles servent à ça, à remplacer ces 20 000 tickets qu'il va bien falloir rembourser aux spectateurs. Et puis évidemment, les assureurs, ils parlent aussi beaucoup dans leur dossier du risque d'attentat. C'est un coût qui est énorme hein, dans la sécurité, qui est pris en charge en partie par le gouvernement canadien, une partie aussi par les organisations olympiques. Mais c'est devenu maintenant, on a l'impression que les assurances elles vendent ça comme le pack obligé. Hein, on fait peur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Prenons le pack tout risque. Risque d'attentat inclus. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais tout ça, il y a tout ce genre d'entreprises qui gravitent. Alors, je vous rappelle, c'est 82 pays, hein, 108 athlètes dans la délégation française. Il y a 2700 athlètes en tout, à peu près. Pour vous donner le prix en dollars, hein, pour le donner en euros d'ailleurs aussi, de certaines places pour la finale du tournoi masculin de hockey sur glace. Une idée ? Allez,
c'est un peu le sport phare du Canada, ouais. Donc ça doit être cher.
Je vous le fais en dollars, 25 000 dollars.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais. Voilà, ça calme hein, tout de suite. Hein. Donc voilà, et le budget total, c'est, je vais vous faire en euros cette fois, 1,15 milliard d'euros. C'est pas des petites sommes, hein. On est quand même sur des enjeux gigantesques. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a eu des petits soucis financiers. Comme de partout, hein, ça avait déjà été le cas. On avait beaucoup parlé sur Athènes, par exemple. Hein. D'autant plus qu'il y avait eu une forte opposition aussi.
En général, les JO, alors pour le coup, les JO d'hiver coûtent quand même un peu moins cher que les JO d'été, mais chaque fois, les pays, enfin les régions, les pays, les endroits où ça a lieu, repartent avec 20 ans de dette.
Ah bah là, de toute façon, c'est le contribuable qui paye. Il faut savoir qu'en plus, à un moment, le gouvernement canadien a mis les holà, il avait décidé qu'il mettrait pas plus d'argent. Évidemment, comme toujours, hein, on privatise les profits et on socialise les pertes. On est bien toujours sur le même principe. On sait aussi que ce qui va se passer, c'est qu'une grande partie des infrastructures seront vendues à rabais, au secteur privé, une fois que les Jeux seront terminés. Normalement, la ville de Vancouver s'était engagée à mettre à disposition ses installations pour des logements sociaux. Aux dernières nouvelles, elle s'est complètement retirée. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui ira aux logements sociaux. Voilà, et puis c'est vraiment une certaine stratégie financière qui avait été mise en place, mais tout s'est écroulé. Déjà en septembre 2009, il y avait un manque de sponsors, alors qu'on était qu'à quelques mois des Jeux Olympiques. Ça faisait un petit peu du bruit quand même, certains investissements n'étaient pas du tout couverts par la trésorerie mise en place. Il y a eu aussi un petit souci puisque il y a une partie des terrains qui vont être mis aux enchères puisque le bailleur de fonds il a pas pu il y a un bailleur de fonds qui est parti et puis ceux qui étaient propriétaires du truc ils arrivent pas à payer leur crédit hein, si vous voulez, c'est aussi bête que ça, on va faire caricatural, et du coup et ben pour pallier à son manque et ben tout ça ça va être mis aux enchères. Donc vous voyez, c'est beau les JO hein, tout ce côté financier qui se barre. Ah, c'est donc deux stations, hein, c'est celle qui accueille en fait les épreuves de ski alpin. Ça devait être vendu le 19 et puis c'est reporté à demain. Alors, on ne sait pas bien s'ils attendent finalement peut-être la fin des JO pour un petit peu éviter le scandale. C'est quand même une dette de 384 millions d'euros. Hein, donc voilà où on en est. Il y a une simple vente aux enchères. Et puis c'est vrai que les sponsors, ils sont partis un petit peu. Alors on dit que c'est le public jeune qui est moins devant sa télé, devant les JO d'hiver. Du coup, les sponsors et les publicitaires sont un peu moins là. Les estimations sont de 8 à 12% par rapport aux derniers JO d'hiver. Il faut dire aussi que le CIO, qui à la base est celui qui doit trouver les sponsors, n'a pas rempli sa tâche complètement. Donc ils sont engagés à trouver d'autres financements dans leur caisse, hein, ils vont taper dans un autre budget. Mais malgré tout, ça reste quand même un truc avec quand même un truc très lucratif hein, pour les publicitaires et pour tout le secteur. Rien que McDo et Coca-Cola, ils déboursent 100 millions de dollars pour cette période. Il faut dire que Coca-Cola, c'est le partenaire historique hein, des Jeux Olympiques. Puisque vous avez des partenaires qui sont les top sponsors, hein, ceux qui sont comme Coca-Cola, qui donnent beaucoup d'argent, qui sont de partout. Et puis ensuite, vous avez ceux qui sont les partenaires nationaux, comme par exemple Bell. ou Petro-Canada, hein, qui le truc de pétrole et gaz local, qui lui va fournir une flotte de véhicules. Donc eux, ils donnent de l'argent et puis aussi ils vont intervenir au niveau du finalement de l'échange de services. Et puis ensuite, vous avez ceux qui sont supporters officiels, alors là, qui sont que dans le service, comme Air Canada ou Bombardier, hein, qui a fait la torche. Ouais, c'est bien l'entreprise à laquelle tu penses.
Bombardier, c'est ceux qui fabriquent les métros, les tramways.
Voilà, voilà. C'est ça, exactement. En tout, c'est 35 sociétés qui sont désignées comme fournisseurs officiels. Donc, tout ça, c'est du business. Et puis, même dans la presse, puisque, par exemple, le quotidien francophone qui s'appelle La Presse, c'est le fournisseur officiel qui a le plus d'infos, qui a le plus de trucs, qui apparaît, qui est là, qui a ses logos, ses machins. Donc, c'est des échanges assez classiques, hein, finalement, dans du partenariat. Et après, vous avez aussi ceux qui vont avoir le droit de licence. Et oui, comme toujours, vous avez les produits dérivés. Et alors là, j'en ai une pleine page, hein, d'entreprises. Et alors, ce qui est très drôle, c'est de voir que ça va de 3M, hein, les post-it, à d'autres trucs qui vous font des épingles d'accessoires, qui vous font des vêtements, des bijoux. Vous avez les rubans pour palettes de hockey, vous avez des cartes artistiques, des affiches, les produits souvenirs... les livres souvenirs, les jeux, le sirop d'érable même, il y a une entreprise qui est aussi labellisée, les vêtements pour enfants, des serviettes de plage, enfin les lunettes de soleil, les fournitures de bureau, enfin le vin, voilà, chaque secteur a des détenteurs de licences. Donc tout ça, c'est aussi de l'argent, hein, ça brasse du pognon, hein. Donc c'est assez drôle. Et puis ils mettent aussi en avant le partenariat avec les produits des Indiens. Et ouais, ils sont très fiers de leurs Indiens quand ils veulent au Canada. Et donc ils vous disent que là c'est de la lard et produits autochtones authentiques. Vous voyez, alors c'est très intéressant entre vous vendre du 3M, hein, du post-it labellisé et avec des logos Vancouver, et puis vous faire un mélange avec les produits artisanaux locaux. Tout ça, c'est du business, bien sûr. Et comme on vous le disait, il y a certaines communautés d'autochtones et d'indiens qui sont de purs capitalistes, ma foi, pas très intéressants. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le COVAN, si vous voulez, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver, il a été fondé donc en 2003, un moment de ça y est, on y est, on a gagné. Donc eux, ils doivent promouvoir le développement du sport en Canada. Et puis alors, ils ont pour mission surtout d'exalter l'âme de la nation. Je cite, hein, l'âme de la nation, ça revient assez souvent. Voilà, il y a une espèce de patriotisme ambiant tout au long de leur déclaration. Et donc, ils sont organisés dans tout un tas de divisions. Vous avez marketing, communication, gestion des sites, exploitation des services. Tout ça, c'est très divisé. Et puis, alors, celui qui est le très, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est évidemment la division ressources humaines, durabilité et services à la clientèle internationale. Évidemment, c'est la division qui s'occupe du recrutement et de l'embauche du personnel rémunéré et bénévole. Alors, il faut savoir qu'il y a un effectif total de 55 000 personnes pendant les Jeux, 25 000 bénévoles. C'est assez énorme, en fait. 15 000 participants, pardon, au moment des cérémonies. Aujourd'hui, c'est plus directement eux qui s'en occupent, c'est le ADECO. C'est par eux qu'il faut passer pour trouver un poste vacant sur les sites. Ça se termine dimanche, donc il faut faire vite, si vous voulez. Mais on vous explique dès le départ qu'il y a un certain nombre de valeurs à respecter. Hein. Il faut toujours exalter l'âme de la nation, c'est encore une fois noté. Il faut édifier un Canada plus fort. Voilà. Et puis, il y a tout un tas de valeurs qui vous sont exposées. Il faut répondre au questionnaire d'auto-évaluation. Et si ça roule pour toi dans les réponses, tu as le droit de poursuivre ensuite ton inscription pour travailler. Alors, on vous pose de sacrées questions qui sont philosophiques. Aimez-vous travailler en équipe ou êtes-vous une personne qui préfère travailler seule? T'es un peu con, tu dis, je travaille tout seul.
T'as pas la place, quoi. C'est toujours une question.
Voilà. Et faites-vous facilement confiance aux autres?
Non, pas du tout.
Cherchez-vous à exceller dans tout ce que vous faites?
Non.
Voilà. Aimez-vous sortir des sentiers battus? Voilà. Alors ça, c'est tout un tas de boulot. Il faut savoir que ça concerne vraiment tous les secteurs. Et donc, comme je vous le disais, il y a 25 000 bénévoles qui sont sur ces Jeux Olympiques. Et alors, quand on lit, il y a un vrai contrat, hein, qui est passé. Ça rigole pas. pareil. On expose tout un tas de valeurs, hein, la valeur d'équipe, l'esprit d'équipe, la confiance, l'excellence, la durabilité. Je sais pas ce que c'est la durabilité. Ouais. Si vous savez, envoyez-nous un mail. La créativité. Et donc, si ces dernières vous sont familières, veuillez poursuivre. Voilà. La lecture du document, sinon allez vous faire voir. Et donc voilà, il faut. Alors ensuite, vous avez tout un tas de remarques, hein, quand même. Il faut être flexible et disponible. Ça vous donne une plus, je cite encore une fois, hein, une plus grande chance de participer. Il faut être disponible 3/4 de temps de travail. Alors les quarts de travail, c'est entre 8 et 10 heures. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Du bénévolat. Et puis surtout, on vous précise qu'il faut vous soumettre un contrôle de sécurité pour obtenir un poste de bénévole. Ça rigole pas non plus. Il faut donc faire preuve de... Enfin, voilà, c'est montrer patte blanche. Hein. Et puis alors, après, ceux qui sont, qui ont été, qui seront bénévoles des cérémonies, alors là, c'est 100 heures de répétition. On vous pose les trucs, on vous explique tel jour et tel jour vous allez être disponible, le week-end, en soirée, enfin à côté la Biennale de la danse, c'est rien du tout en investissement. Hein. On vous explique que vous êtes responsable de transport, globalement démerdez-vous. Et puis surtout, on vous indique qu'aucun billet pour assister aux cérémonies ne sera remis aux bénévoles. Donc ça veut dire que vous êtes bénévole, vous donnez un temps à la nation quand même, hein, puisque c'est ce qu'on vous demande. Et en échange, vous n'avez pas le droit d'inviter votre conjoint, votre maman à la cérémonie d'ouverture. Donc c'est un peu mesquin quand même, on peut trouver, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un peu mesquin. Mais alors, on peut continuer à parler finance un peu, hein. Parce que il faut bien se rendre compte que les athlètes, ils y vont pas non plus juste pour la gloriole, hein, et pour la nation, justement. Hein. Alors, combien ça touche un Français qui gagne l'or? 50 000 euros. Ouais, c'est pas mal. 20 000 si vous avez l'argent, 13 000 si vous avez le bronze. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays qui payent bien mieux, puisque l'Italie, l'or, c'est 140 000. 50 000 pour le bronze. Donc, il y en a qui sont plus généreux. En Russie, alors, eux, ils ont 100 000 dollars pour l'or.
Ça, c'est les primes données par l'État.
Ouais, ouais. Puisqu'il faut savoir qu'après, il y a des primes qui peuvent se rappeler.
Par les sponsors, par les... Alors,
les sponsors, c'est une chose. Et les fédérations, ça dépend vraiment des pays. C'est vrai qu'il y a des pays où les fédérations, elles ont rien. Où elles sont très radines, ça dépend. Mais il y en a aussi certaines qui ont pas grand-chose, donc elles ont rien à donner. Enfin, normalement, c'est les JO amateurs, on est... Enfin,
oui, c'est ça.
On n'est pas censé y aller pour le pognon, quoi. Et puisqu'il y a des pays aussi qui donnent des voitures, hein. La Russie donne des voitures. Voilà, ça se fait bien encore. On pensait que c'était fini, mais non, ça se fait bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, pour les hockeyeurs canadiens, la médaille d'or, c'est 20 000 dollars chacun. 20 000 dollars US, j'entends. Hein. Oui, oui. Ça fait 14 800 euros, hein, si vous voulez la conversion. Mais il y a une entreprise privée qui a promis le million de dollars à partager. Hein. Une entreprise privée, donc, d'Alberta, qui a promis ça aux lugeurs canadiens s'ils gagnent le... L'or, voilà, donc ça veut dire qu'il y a
une... Ils ont une grosse carotte, alors.
Ouais, c'est aussi ça, hein, les JO, c'est exactement ça, c'est la carotte. Donc, la France est quand même un petit peu engagée dès le départ. Si vous voulez, le calcul, il est, on estime le nombre de médailles que le pays pourrait avoir, et ensuite, on voit ce qu'on peut taper dans les caisses de l'État, du ministère des Sports, en l'occurrence.
Conclusion, elles n'étaient pas vides, ils nous disent que les caisses sont vides, ils ont trouvé de l'argent pour les...
Ouais, alors si...
En même temps, ils n'espéraient pas beaucoup de médailles, donc ils se sont dit, ça va pas nous coûter.
Alors,
cher.
Ils en espéraient une dizaine. Et alors, j'ai arrêté mon calcul hier, hein, donc je ne sais pas s'il y a eu des médailles aujourd'hui, je vous avoue, m'en êtes pas vraiment préoccupé. Mais hier, j'en étais déjà à 226 000 euros que nous, contribuables, allons donc donner à des athlètes français, hein, qui représentent la nation. C'est une somme qui paraît ridicule par rapport, évidemment, à un budget
de l'État, oui.
De l'État, même un budget du ministère. Mais enfin, encore une fois, moi, je croyais qu'ils y allaient vraiment... pour montrer que tout se passait bien. Alors, des critiques encore qui sont amenées directement sur place, hein, au-delà des critiques de ce qu'amènent en destruction les Jeux Olympiques, ça vient aussi de la part des Québécois et des francophones canadiens, puisque ils sont pas très contents. On vous rappelle, hein, le français, c'est une langue des Jeux Olympiques. C'est la langue première. Alors évidemment, ça se perd. C'est vrai que moi, je suis pas bien pour ces traditions débiles. Hein. Mais bon, c'est la règle normalement.
Sauf que Vancouver, c'est une région anglophone. C'est pas voilà. du tout au Québec. Oui. Voilà. C'est en Colombie-Britannique.
Juste que comme les rappellent ceux qui sont francophones, c'est censé être les Jeux Olympiques de tous les Canadiens. Donc ça aurait pu être un moyen de mettre à l'honneur aussi la diversité des langues, la diversité des cultures, hein, autochtones, indiennes, et puis anglophones, francophones, les cultures locales. Est-ce que finalement il n'apparaît pas du tout, puisque même au niveau des bénévoles, je crois qu'on est autour de 23% simplement de francophones. Donc il y a très très peu de présence. Le français, il a été quasi absent. Même la presse canadienne a fait remarquer cet état de fait. Donc c'est que c'est un sujet qui est important au Canada. Donc avoir fait une telle erreur, c'est critiqué de partout. Puis ça remet en colère. Je vous laisserai vous même aller chercher ce que certains blogs pro-Québec peuvent raconter. On est dans du régionalisme.
Ouais, mais c'est pour le Québec libre.
Voilà. Alors, ça démontre quand même une réalité aussi voilà, au niveau local. Et donc, ça bouge un petit peu de ce côté-là. Mais enfin, malheureusement, c'est fait. À moins qu'ils se rattrapent sur la fin. Donc voilà, tout ça pour recenser un petit peu les JO. Et pourquoi aussi je voulais parler de ça, c'est qu'on est déjà en train de nous vendre les JO pour Annecy 2018, pardon.
Alors, ça veut dire que, on rappelle, en France, on a eu les JO d'hiver à Grenoble.
Albertville.
Ils ont investi dans les infrastructures, ça a créé l'autoroute, tout ça, mais ça a endetté la région, la France, sur un nombre d'années incroyable, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer, alors.
Alors c'est ça. Ils sont très contents d'eux, puisque il y a eu le logo là qui vient juste d'être diffusé, hein, montré à la presse. Mais il y a déjà des gens qui sont en train de se bouger. En particulier, je vais citer eux, mais il y en a d'autres. Hein, le comité anti-olympique de Grenoble, et qui lui connaît bien ce qui s'est passé vers chez lui. Donc continue à lutter contre tous les Jeux Olympiques partout dans le monde. Enfin voilà, à chaque fois ils interviennent, ils participent à la propagande contre les Jeux Olympiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est épargner aux Alpes, hein, le fléau olympique. Ils ont des séquelles de ce qui s'est encore passé là-bas au niveau financier, mais la montagne est moche maintenant. Ouais. Je vous laisserai aller voir sur le site de challenge.fr une vidéo de notre secrétaire d'État au sport, Ramayad. Ah là là, elle nous raconte que ça va être génial, Annecy 2018, qu'il faut tous être derrière. Bon, qu'on va pas refaire l'erreur de Londres 2012, parce que Delanoë, il a été un comble. Je raccourcis, mais globalement, son propos est là, quand même.
C'est que Paris a perdu parce qu'ils ont été nuls.
Voilà, la faute de Delanoë. Et puis, elle nous vend ça, que tout le monde a un souvenir merveilleux de ce qui s'est passé à Albertville. Donc, on doit reproduire des jeux de la nature, proche de la montagne, continuer à enlaidir tout ça avec des constructions massives. Ouais. Hein, c'est les JO, pour synthétiser globalement, c'est des coûts indécents, des aménagements démesurés, pardon, un environnement qui est complètement bousillé, une ville.
Ouais. La montagne est plus jamais pareille après les Jeux.
Ah, c'est fini, quoi. C'est fini. De toute façon, elle est explosée. Ils y vont à la dynamite, donc c'est plus jamais la même. C'est des villes, une ville, des villes fliquées, des populations, j'allais dire exilées, mais c'est ça, hein, qui sont repoussées, réprimées. Et puis c'est une idéologie nationaliste qui est complètement répugnante, basée sur la compétition, le lobbying, hein, parce que dans le patinage artistique, il y a déjà eu des scandales sur le résultat masculin. Même Monsieur Poutine, un premier ministre russe, s'est exprimé du mécontentement. Donc il y a aussi tout cette présence politique, et tout ça au nom de quoi? Du pognon, bien évidemment, et de la nation, hein, le fascisme.
Alors juste pour terminer.
Donc on va continuer avec le fascisme.
Voilà, pour expliquer d'où ça vient, parce qu'on a toujours cette image très négative des JO, qui sont pas l'expression du sport, parce que les gens font du sport tous les jours, ils font pas des JO tous les jours. Donc les JO, c'est juste de la compétition. Et comme tu le disais, on parle beaucoup de nation. Alors on va réexpliquer. Alors moi je le fais tous les deux ans quand je fais le Canu Info et qu'il y a des Jeux Olympiques, mais il faut toujours le redire. Donc c'est quelqu'un qu'on appelle Pierre de Coubertin, qui est à l'origine des JO modernes. Alors c'est pas son vrai nom, il s'appelle Pierre Freddy. Mais il est
bas. C'est l'idée participer là. Ouais. L'important, c'est de participer.
Donc Pierre Freddy, voilà. Baron de Coubertin. Donc maintenant, on l'appelle Pierre de Coubertin. hein, alors que c'est pas son nom du tout, c'est Pierre Frédy. Donc il y a plein de stades, plein de rues, il y a plein d'endroits qui s'appellent Pierre de Coubertin. Donc c'est un aristocrate français, donc il est né en 1863. C'est un grand admirateur des civilisations grecques, des statues grecques, de l'image mâle grecque sur les statues où on voit des hommes musclés avec des petits kikis. Enfin, surtout il aimait les hommes musclés. Donc voilà. Alors lui se met en tête, après un passage en Angleterre, de relancer la tradition des Jeux Olympiques. On est à la fin du 19e siècle. Donc, alors, les inspirations. D'où vient cette idée, cette beauté grecque, là, qu'il a envie de montrer au monde entier? Alors, il est inspiré par deux personnes. Il y a d'abord Francis Galton, qui est un naturaliste, qui s'efforça toute sa vie de démontrer l'inégalité des races. Donc, c'est le premier inspirateur de Pierre Frédy, le baron de Coubertin. Et ensuite, il y a Joseph Comte de Gobineau qui a écrit l'essai sur l'inégalité des races, qui est aussi un grand inspirateur de Pierre de Coubertin, qui inspira d'ailleurs aussi Hitler. Vous verrez que Pierre de Coubertin et Hitler ont beaucoup de points communs. Donc voilà, donc il se bat beaucoup. En 1894, il arrive à rassembler 12 pays derrière lui pour relancer les Jeux Olympiques qui auront lieu donc en 1896, deux ans plus tard, la première Olympiade. Donc qui a lieu à Athènes pour des raisons ça paraît évident, hein, c'était symbolique. Donc pour Pierre de Coubertin, l'objectif c'était de montrer la supériorité de l'Occident, la perfection de l'homme blanc, autant sur le plan physique que spirituel. C'est ça, l'important c'est de participer. Pour lui c'était la supériorité de l'Occident. C'était le physique, mais c'était le spirituel. Voilà, une tradition de judéo-chrétienne blanche nationaliste, ouais, quelque part. Donc, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, oui, ça commence comme ça, sauf que ça va vite mal se passer. Alors, d'abord, il y a de l'opposition très rapidement. Alors, faut dire que dans les premières Olympiades, notamment en 1904 à Saint-Louis, par exemple, les races dites inférieures, alors là, dedans, il y a les Pygmées, les Turcs, les Syriens, les Sioux, tout ça, ils ont des compétitions à part. Donc, il y a les races, la race blanche occidentale, qui a des compétitions pour elle, et les autres, les sous-races, elles ont des compétitions à part. Et il n'y a pas de femmes. Il faut dire que Pierre de Coubertin, qui est non seulement raciste, nationaliste...
C'est un sexiste,
mais alors... Il est misogyne à mort. Et alors, ce qui va se passer, en fait, c'est là où il va se séparer de son bébé, en fait. En 1928, au Jeux d'Amsterdam, contre l'avis de Coubertin, les gens décident de faire participer les femmes. Il y aura 290 femmes au premier JO féminin de 1928. Donc là, il est complètement écœuré, Pierre de Coubertin. Il quitte... il s'éloigne du comité olympique international et il se rapproche du comité olympique allemand, celui qui va organiser les JO de Berlin de 1936, qui est les grands JO de propagande néo-nazie, enfin nazie plutôt, parce qu'à l'époque ils étaient pas néo, c'était nazi. Voilà. Et pour terminer, ce qui nous fera plaisir et ce qui a fait plaisir à tous ceux qui luttaient contre le nazisme et contre le racisme, c'est que ces JO seront dominés par Jesse Owens. Un noir américain qui va écraser tout le monde et qui va ridiculiser Pierre de Coubertin, Hitler, tous les gros racistes. Donc voilà, donc si vous voyez une rue, un stade, Pierre de Coubertin, ben vous pouvez toujours écrire une lettre en demandant que le nom soit changé, puisque c'était quand même un grand raciste, défenseur de l'inégalité des races et anti-femmes, puisqu'il voulait pas que les femmes... Alors pour lui, ça ternissait l'image... un peu glorieuse des Jeux Olympiques, le fait que les femmes y participent. C'est quand même horrible. Enfin, j'ai pas cité, il y a une phrase qu'il avait dite. Ah oui. Je cite une phrase de Pierre de Coubertin, vous allez voir son niveau de racisme. Il y a deux races distinctes. Celle au regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée. Et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l'air vaincu. Voilà, c'est cette propagande que Hitler avait récupérée après, ils sont inspirés par les mêmes hommes, où il faut être grand, beau, fort et musclé, et il n'y a que ces gens-là qui doivent réussir, c'est normal qu'ils écrasent les autres, parce qu'ils sont au-dessus des autres, voilà.
Ouais, alors justement, pour revenir un petit peu aussi à ce racisme, ce fascisme, il y a eu aussi une petite affaire avec un des films projetés lors des passages de la flamme olympique. On y voyait à l'intérieur des extraits des films de Leni Riefenstahl.
Qui est donc propagandiste au régime, au service du régime nazi, avec ses films glorifiant justement le corps fort, l'homme fort, l'idéal grec.
Ce qui était bizarre, c'est que ce film était censé être une rétrospective des jeux, mais toute simple, et pas du tout un objet historique dans lequel ces films ont leur place. Hein, mais ce qui a été bizarre, c'est qu'ils ont en fait assombri les saluts nazis. C'est-à-dire qu'ils ont
ils ont honte un peu.
Ouais, alors c'est bizarre d'avoir fait ça. C'est-à-dire que soit on y met et puis on dit bah voilà, c'est aussi ça a été aussi ça. Hein, on va pas refaire l'histoire, c'est une réalité dont il faut prendre en compte. Soit on met pas ces images. Alors il faut savoir que le Congrès juif canadien, le centre de la Shoah, puis des historiens se sont un peu énervés sur cette affaire en disant bon c'est quoi tout ça. Et puis là-dessus, ben les organisateurs avaient s'est excusés. Ils auraient pu aussi ne pas faire marche arrière. Hein, décider ben non, nous c'est ça. Mais non, ils se sont excusés, ils ont promis on enlève le film, sauf que le film n'a pas été enlevé. Il a continué à être diffusé. Donc voilà, encore une espèce de scandale à côté encore de ce que sont les... Parce que là, on n'a même pas parlé du scandale du dopage ou de toutes ces choses-là. On va vous épargner ça. Mais voilà, les JO, c'est aussi ça. Plein de petites choses, toutes pourries. Hein,
voilà. Puis c'est tellement nationaliste que pendant de nombreuses années, le président du CIO, c'était M. Samaranch, leader de l'extrême droite espagnole, qui était du côté de Franco quand il était en Espagne. Et ça a jamais choqué personne. Ni aucune société capitaliste, ni aucun gouvernement n'a boycotté le CIO, l'organisation des Jeux Olympiques, pendant les dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années où M. Samaranch était le chef. Voilà, on va faire un bref agenda, parce que c'est 8 heures dans quelques secondes, et qu'on va laisser la place à la bande à Spartacus. Ils vont vous parler de toutes les luttes sociales, hein, des grèves, il y en a partout, chez Total, il y en a toujours, chez IKEA, ça va recommencer, dans les transports, il y en a toujours. Voilà, on soutient bien sûr toutes ces grèves. Je vais commencer à parler du salon Primevert qui commence demain, salon sur l'écologie et les alternatives. Alors c'est une grosse, vaste salon commercial pour l'essentiel, mais il y a aussi au sein de Primevert des débats. Par exemple, il y a un débat qui est vendredi à 16h. Sommes-nous plus libres parce que nous nous déplaçons plus? Donc l'idée, c'est de remettre en question la voiture, notamment. On va de plus en plus loin, de plus en plus facilement. Voilà, enfin, il y a plein de débats comme ça. Alors, il y a des moyens d'y aller sans polluer. La Ville à vélo organise deux départs samedi et dimanche matin à 10h30. C'est place Charles Béraudier, c'est devant la gare de la Part-Dieu. Et sinon... plus festif, une vélorution spéciale Primevert aura lieu où quand on arrivera là-bas on distribuera des tracts à l'entrée. Donc c'est samedi. Alors le rendez-vous est beaucoup plus tôt que d'habitude, c'est rendez-vous à 13h et c'est pas au même endroit, c'est au parking de la Friche RVI. Donc 13h parking de la Friche RVI pour la vélorution de Primevert, c'est 84 avenue de la Cassagne dans le 3e.
Et puis, alors, si vous voulez pas faire de vélo, il y a un rassemblement de soutien au syndicat de la FAU de Berlin. C'est donc ce samedi 27 à 15h. Le rendez-vous est devant l'Institut Goethe, 16 rue François Dauphin dans le 2e. C'est donc un rassemblement de solidarité pour ce syndicat qui vient donc de se voir interdire alors qu'il était en pleine lutte dans un cinéma. Donc voilà, c'est des choses que les syndicats français comme la CNT ou Sud, il n'y avait pas très longtemps, ont pu connaître. Donc c'est une solidarité internationale qui est toujours importante. Et puis le soir à 20h, vous avez la possibilité d'aller manger un maffet au centre social autogéré de la Croix-Rousse, rue des Tables Claudiennes. Et je ne sais pas si tu avais autre chose pour le samedi.
Non.
Non, et ben sinon dimanche 28 à 14h30 à l'atelier des Canulars, rue Montesquieu dans le 7e arrondissement, il y a une collation en mémoire à la déportation du peuple tchétchène. C'est organisé par le comité Tchétchénie Lyon. Voilà, ça permettra aussi de rediscuter un petit peu.
Et justement, la semaine prochaine, dans l'émission qui est avant nous d'Attaque, ils font un spécial Tchétchénie. Voilà. Donc voilà, on vous laisse en compagnie de Michael pour la bande à Spartacus.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
C'est une bande à lui tout seul.
Voilà, à bientôt.
Bye bye.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Le Kenya Info de Radio Kenya.